poésie et ainsi de suite. Manu Farine.
Quant à moi, le moindre soupçon de ronron poétique m'avertit seulement que je rentre dans le manège et provoque mon coup de rein pour en sortir. Aujourd'hui, lire La rage de l'expression de Francis Ponge.
On a beaucoup insisté sur le mystère, sur la possibilité de comprendre pourquoi l'homme, pourquoi le monde, etc., bien sûr. Enfin, je pense que cela a été traité tout à fait à fond, mille fois, et par les philosophes, et par les poètes, et que Hamlet, oui, bien sûr, enfin, on a compris, ça va. Il est évident que si on prend ça comme un fait, c'est entendu l'absurdité de l'homme, et qu'on s'applique au relatif, c'est-à-dire qu'on place l'homme entre les deux infinis, n'est-ce pas ? L'infini astronomique, si on veut, et l'infini microscopique à sa place dans l'univers. Plaçons-nous à notre barreau sur l'échelle. Et ne passons pas notre temps à regarder en haut ou à regarder en bas, et faisons ce que nous pouvons faire à notre barreau sur l'échelle. Ce que nous pouvons le faire, je l'ai dit, à partir de la modification du langage. En changeant la conception du monde par le travail sur le langage.
Pauline Flett, bonjour, bienvenue à vous. Cesser de regarder vers le haut ou vers le bas, à lire Ponge, où donc faudrait-il regarder ?
Vaste question. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans le passage qu'on vient d'entendre, quand il dit qu'en effet il faut cesser de regarder vers le haut ou vers le bas, on retrouve quelque chose qui est assez important chez Ponge, qui est cette idée qu'il faut se détourner de deux tentations. Une première tentation qui serait d'aller chercher vers une transcendance, un sagu dans une sorte d'absolu qui pourrait être un absolu poétique ou un absolu, je sais pas, qui passerait par, pourquoi pas, par le biais de la religion ou de la métaphysique, quelque chose que bien sûr lui il rejette. Et de l'autre côté, regarder vers le bas serait plus la tentation du désespoir, quoi, de se dire rien ne fonctionne, on s'enferme à ressasser son désespoir, ce qu'il refuse aussi. Donc il faut très clairement regarder à la juste hauteur, regarder vers les choses, et c'est pour lui, en étant à cette juste hauteur, qui va parvenir à trouver une sorte de sagu, en fait.
Quand il dit, toujours dans ce qu'on vient d'entendre, quand il dit changer la conception du monde par le travail sur le langage, est-ce qu'on pourrait dire que le mot travail est presque aussi important que le mot langage ?
Ah oui, très clairement, oui, c'est sûr. D'ailleurs, dans le recueil dont on va parler aujourd'hui, La rage de l'expression, il y a cette idée que le travail est au cœur de l'entreprise poétique, avec cette opiniâtreté du poète qui est aux prises avec les mots et qui s'efforce par ce travail sur les mots, avec les mots, de rendre compte, en leur faisant le plus, en rendant justice, de rendre compte des choses.
Alors justement, dans La rage de l'expression, il expose ce travail, en tout cas l'effort du projet, l'effort du texte. C'est clairement à l'œuvre dans La rage de l'expression, qui est ce recueil, je ne sais pas si on peut appeler ça un recueil, paru pour la première fois en 52, il a une petite cinquantaine d'années, qui est un recueil écrit entre 38 et 43, toujours un peu compliqué d'être raccord avec les dates dans l'œuvre de Ponge, donc il est presque à mi-parcours, en tout cas quand il écrit les textes qui vont faire La rage de l'expression. On est après Le parti pris des choses, on est avant Pour un Malherbe. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour, je ne sais pas si on peut vous qualifier de pongienne, mais pour la peut-être pongienne que vous êtes, votre recueil favori ?
Alors, ce qui en fait mon recueil favori, déjà, je dirais que c'est l'humilité qu'on y trouve, enfin l'humilité dans la posture de poète. Le recueil de Ponge le plus connu, c'est clairement le parti pris des choses. Et dans le parti pris des choses, il y a cette posture un peu d'autorité, cette infaillibilité un peu courte. Là, je cite Jean Pogan, et c'est quelque chose qui reproche un peu à Ponge, finalement, en lui disant qu'il faudrait un peu en finir avec cette infaillibilité un peu courte, cette posture d'autorité, je sais pas, le rompons-là du pain. Et dans La rage de l'expression, il y a une posture complètement nouvelle du poète qui a pris son parti de l'absurde, qui se rend compte finalement qu'il n'est pas possible de décrire les choses. Et qu'est-ce qu'il va publier à partir de là? Il va publier les relations d'échecs de description. Et c'est ça, personnellement, qui, moi, me touche, en fait.
Lorsqu'il écrit, petite parenthèse, il n'aimerait sans doute pas ça, mais lorsqu'il écrit ces textes-là, on est pour l'essentiel en 40-41, Ponge se déplace beaucoup. Alors à l'époque, il est communiste, il est résistant. L'un des poèmes est d'ailleurs adressé à Michel Pontremoli, qui est un résistant qui a été fusillé juste avant la libération. Et il trouve donc le moyen de parler de Yé, de Ciel de Provence, de Mimosa, etc. Donc, donnant l'impression que les textes sont un peu à froid comme étanches à ce contexte-là, est-ce qu'ils le sont véritablement étanches au contexte?
Oui, alors c'est sûr qu'il y a clairement un décalage par rapport à la production poétique de l'époque, qui était la poésie de résistance. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a pu lui reprocher. Enfin, certains de ses amis, notamment ses amis communistes, je pense à un autre communiste qui s'appelait René Guénaud, qui a aussi été fusillé à la fin de la guerre, qui l'incitait à écrire sur l'homme, en fait, et à écrire sur des sujets plus directement politiques. Mais je trouve que dans La rage de l'expression, il y a très clairement une volonté, même si elle n'est pas évidente, de concilier, en fait, ses préoccupations esthétiques et ses préoccupations politiques. Je pense, par exemple, à un texte comme Le carnet du bois de pain. Évidemment, à première vue, par quoi commence le texte? Par le plaisir du bois de pain. Donc on pourrait se dire, il a vécu l'exode pendant un mois et demi, maintenant il a retrouvé sa famille et il a le droit de profiter, de passer à autre chose avec le plaisir du bois de pain. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce texte, il se termine en fait avec toute une réflexion sur la façon dont l'individu va trouver sa place dans la société, notamment avec le pain de Gorée, c'est-à-dire le pain qui est à la lisière, et qui parvient justement et à être, à affirmer sa singularité en étant tourné vers les champs, vers l'ouverture, et à prendre place dans la société par son côté qui est tourné vers le bois de pain. Donc là, très clairement, on retrouve finalement la préoccupation première de Ponge, qui est comment et affirmer ma singularité, être l'écrivain que j'ai envie d'être, mais aussi ne pas me détacher de mes convictions politiques, du fait qu'il a quand même envie de dire quelque chose de l'homme et du devenir collectif.
Là, vous parliez d'un des textes qui fait ce recueil. Le premier, celui qui ouvre, qui s'appelle « Berge de la Loire », indique très clairement qu'il est déterminé, ça c'est sûr, puisqu'il commence en disant que rien désormais ne me fasse revenir de ma détermination. Ne sacrifier jamais l'objet de mon étude à la mise en valeur de quelques trouvailles verbales que j'aurais faites à son propos, ni à l'arrangement en poème de plusieurs de ces trouvailles. Quel est le programme, en fait, qu'il souhaite mettre en place et qu'il indique d'entrée?
Avec ce texte programmatique, vous voulez dire? Très clairement, ça montre une rupture, finalement, avec ce qu'on appelle la poétique des textes courts, qui est la poétique la plus connue de Ponge dans les textes du Parti pris des choses, avec ces textes très courts, finalement moins déboussolants, quoi. Ça se rapproche du poème en prose. C'est quand même assez original, mais je pense que c'est moins déboussolant, notamment pour des lycéens.
Ça rappelle ces petits poèmes, le pain, l'huître, le lézard, l'escargot.
Exactement. Alors que dans La rage de l'expression, avec les textes ouverts, il n'y a plus finalement cette idée de faire privilégier la réussite esthétique. Il n'y a plus l'idée de faire privilégier la construction d'un poème. Et au contraire, il définit très clairement certains de ses textes comme plutôt des entreprises anti-poétiques, avec cette idée que maintenant, ce qui prime, c'est, encore une fois, rendre justice à la chose, essayer d'être au plus près de la qualité de chaque chose, pour que l'homme, ensuite, y gagne lui-même des qualités, vous voyez, en s'appliquant aux choses. Et, comme il dit, comme dans l'extrait là, dont vous avez parlé, ne plus faire primer, finalement, la trouvaille verbale, quoi.
Il dit d'ailleurs, dans un entretien, que pour en finir, justement, avec... alors, c'est contre une certaine forme de poésie, mais peut-être qu'on peut l'entendre aussi contre la sienne propre, en tout cas contre le parti pris des choses d'une certaine façon, quand il parle d'en finir avec le poème bibelot, qui serait ce poème clos,
fermé pour lui privilégier une forme plus ouverte avec l'idée comme ça de poèmes interminables, enfin inachevés en tout cas, mais interminables. En finir avec le poème bibelot, c'est en finir avec quelle idée du poème ?
Alors je pense que très clairement, il se détache. Alors, si on parle de ses propres inspirations poétiques, oui, très, très longtemps, il a quand même été très influencé par Mallarmé, par l'écriture très obscure des poèmes mallarméens. Et c'est quelque chose dont il tend à se détacher. Il écrit d'ailleurs dans une lettre à Michel Pont-Remoli le fait que cette tentation qui lui a été profitable...
La tentation de l'obscur.
Voilà, il entend s'en détacher pour finalement tendre vers plus de clarté et de simplicité. Après... je pense qu'il veut aussi, bon, là, c'est plutôt un poème bibelot, mais il veut clairement se détacher des poèmes de la résistance et du retour à la métrique traditionnelle, à l'alexandrin, à des formes comme la forme du sonnet.
Même si on en trouve dans la rage de l'expression.
C'est vrai, quelques-uns quand même qui sont glissés là comme une petite tentation dont il a du mal à
se
détacher.
Variation. Ouais. La guêpe, note prise pour un oiseau, l'œillet, le mimosa, le carnet du bois de pin, chaque texte, poème, chaque note, chaque variation, chaque reprise, répétition, est presque, en tout cas, est daté, précisément, comme un peu une manière de faire journal hein, de ces poèmes. Qu'est-ce que ça dit de ce que c'est qu'écrire, en tout cas, à ce moment-là, pour lui, cette idée d'emploi du temps et cette idée d'une continuité ?
Oui, alors c'est sûr que le fait que tous ces poèmes soient datés, déjà c'est une nouveauté, hein, c'est une première. Et c'est très important pour toute cette nouvelle dimension de son écriture qui est le fait, bon alors là je vais dire un peu une banalité, mais c'est aussi l'aventure d'une écriture, un journal poétique, donc le fait que tous les textes soient datés, bah, évidemment c'est essentiel, mais il me semble que c'est aussi important au sens où contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait qu'ils sont complètement détachés du temps présent, ça montre que si, ils sont aussi inscrits dans le temps présent. Et d'ailleurs, dans un texte comme La Guêpe, qui à première vue pourrait paraître complètement détaché des préoccupations historiques, du contexte historique, en fait, il y a plein de petites phrases glissées par-ci par-là qui peuvent être entendues comme des allusions au contexte historique. Je pense notamment, alors je ne sais plus exactement, mais quand il parle de... je vais pas retrouver le passage dans le livre, mais du jardin qui est parcouru par une horde, enfin les saints comme une sorte de horde d'envahisseurs, les munitions, les balles, enfin il y a comme ça plein de petites allusions qui très clairement peuvent s'entendre comme des références au contexte historique.
Est-ce qu'il faut le croire, Ponge, quand il insiste dans plusieurs de ses entretiens, quand il dit, redit encore et encore qu'il ne se veut pas poète?
Alors là, je pense qu'il faut le croire, oui. Oui, oui, clairement, il ne se prétend pas poète, il ne se veut pas poète. Oui, ça, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est aussi désespéré quand quand il envoie à Odizio le carnet du bois de pin et que Gabriel Odizio lui répond qu'il a trouvé ce texte très beau et qu'il y a vu la naissance d'un poème. Et pour Ponge, c'est le pire des contresens, puisque, encore une fois, c'est pas la naissance d'un poème, au contraire, c'est... comme il le dit, un renoncement plutôt à tendre au poème. C'est une entreprise anti-poétique. Donc, oui.
Mais pourtant, si on revient à l'archive qu'on a entendue en ouverture de l'émission, c'est bien au poète qu'il appartient de travailler le langage.
Oui. Alors, évidemment, qu'il tend. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une redéfinition de ce qu'est la poésie, de ce que doit être la poésie. Longtemps, il a toujours tendu. D'ailleurs, ça se sent, vous dites très bien, on voit cette tension dans le carnet de bois de pin, dans quasiment tous les textes de l'âge d'expression, entre le vers et la prose. Finalement, on voit qu'au début, quand il commence le carnet de bois de pin, il a encore cette idée que le poème, enfin la substantifique moelle du texte, doit être de tendre vers le vers. Et il y a beaucoup de passages qui sont en vers. Et puis, d'un seul coup, il y a un retour de la prose. Il dit non, il faut que je renonce à ce poème en vers. Et il se rend bien compte que non. Il ne faut pas tendre absolument vers le poème en vers, il faut s'inscrire dans la prose. Et c'est comme ça qu'il va arriver à dire la vérité de ce bois de pin.
Alors, changer la conception du monde par le travail du langage, ça peut être aussi, peut-être on verra, une affaire éthique. On l'écoute.
Avant, on disait de quelqu'un, il a le cœur comme une pierre. Ça voulait dire dur. Et c'est pas sans se borner à la qualité de la dureté quant à la pierre. Mais si on va à la pierre... Et si on cherche les autres qualités que la pierre a, en plus de la dureté, vous comprenez, on ne pourra plus dire comme un lieu commun, elle a un cœur de pierre. Vous comprenez? Parce que si on arrive à changer l'idée de la pierre dans l'esprit de l'homme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement dure, mais bien autre chose, on aura changé tout, la morale aussi.
Tout, la morale aussi, hein, comme si elle était extérieure au tout par ailleurs. Mais comment est-ce qu'il faut entendre ce qu'il vient de dire, justement, sur le fait que le langage permette de changer tout, la morale aussi?
Oui, ben, y a vraiment cette idée, en fait, qu'en s'appliquant à des choses vers lesquelles d'habitude on ne pense même pas à se tourner, les choses les plus quotidiennes, les plus communes.
Par exemple.
Par exemple, je sais pas, l'huître, le pain, comme vous avez dit, mais dans ce recueil, la guêpe, enfin, c'est pas forcément des choses qui, a priori, font poésie, font poème, sur lesquelles on songerait à écrire. Et y a cette idée, finalement, que c'est comme ça que l'homme va pouvoir gagner de nouvelles qualités qui sont aussi des qualités morales. C'est quelque chose qu'on ressent, alors c'est pas un texte de la rage d'expression, mais dans le texte sur l'escargot, par exemple, avec cette tension qu'il trouve chez l'escargot entre l'orgueil et l'humilité. Et finalement, lui-même, en écrivant sur l'escargot, en s'attachant à dire l'escargot, il gagne quelque chose vraiment moralement. Ça se ressent au fil du texte.
Comment est-ce qu'il faut entendre alors, parce qu'on n'en a même pas parlé encore, comment est-ce qu'il faut entendre ce terme de rage, hein, de l'expression? Est-ce qu'elle renvoie à l'expression ou est-ce qu'elle renvoie à l'auteur?
Alors c'est difficile de les dissocier, mais bah, je pense que clairement elle renvoie à cette opiniâtreté que vous évoquiez tout à l'heure de l'auteur qui ne lâche rien en fait, qui... Il sait qu'il ne va pas arriver à décrire la chose, puisqu'il a pris son parti de l'absurde et de l'impossibilité de décrire les choses. Mais il persiste quand même, il s'y attache. Et cette rage, elle se ressent dans tous les textes qui composent le recueil.
Qu'est-ce qui la rend si nécessaire aux yeux de Ponge, l'expression?
Bah, c'est clairement que c'est ça qui lui permet de tenir debout, en fait. Il le dit à plusieurs reprises. Enfin, il y a une image qui revient dans plusieurs textes, qui ne sont pas des textes, plus des textes dans les archives, des textes pas forcément publiés, qui est cette image du trou, en fait. Et que chacun écrit pour boucher son trou. Et je pense que lui, bah, la façon qu'il a trouvée pour boucher son trou, bah, voilà, c'est de s'attacher à ces choses-là autour de nous. Et c'est comme ça qu'il tient debout, en fait.
C'est aussi, je crois que c'était Solers qu'il évoquait dans l'un de ses textes, je pense que c'était à la disparition de Ponge en 88, c'est aussi ne pas mentir, cette dimension morale, quand il dit ne pas mentir, ne pas céder à la psychologie, à la démagogie, au sentimentalisme. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là?
Mais alors, je trouve ça intéressant que c'est dans un où il dit que, enfin, pour lui, la psychologie, ça serait forcément mentir.
C'est pas Ponge, hein, c'est Solers qui le dit.
Oui, oui, c'est ah, d'accord. Ok, je croyais que c'était Ponge.
Non,
ça m'étonnait, mais c'est plus Solers. D'accord. J'ai perdu le fil.
Non, c'était sur cette dimension morale, justement. Voilà, c'était juste pour savoir si vous adhériez à cette idée avancée par Solers, qui serait que le travail tel qu'il est entrepris par Ponge, il y aurait aussi cette idée de se refuser au mensonge.
Oui, j'y adhère, oui. Moi, personnellement, non, mais je pense que Ponge, oui, ça vaut pour lui.
Il parle, on parle alors à son sujet, on parle de froideur, de rigueur, dans un entretien aussi, il dit qu'il devient de plus en plus scrupuleux. Là, c'est Ponge, pour le coup, qui parle. Et pourtant, il y a comme un malentendu aussi autour de Ponge et cette idée-là de froideur, d'objectivité, parce qu'il y a quand même qui viennent interrompre les textes dans la rage de l'expression, c'est très clair. Il y a souvent comme ça des irruptions. Je ne sais pas, il peut y avoir des allitérations, des calembours, des choses comme ça. En tout cas, des irruptions a priori irrationnelles. Qu'est-ce qui peut se jouer entre ces deux pôles-là?
Oui, mais alors c'est vrai que cette image dont Ponge,
de chosiste, entre guillemets, hein.
Ouais, de froideur, personnellement, moi, c'est quelque chose que je ne ressens pas du tout à sa lecture. Enfin, je trouve que justement, La rage de l'expression, c'est un recueil où très clairement, il y a une dimension intime. Enfin, d'ailleurs, il le dit dans le Mimosa, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse au Mimosa? Parce que c'est son imprégnation enfantine la plus forte. Enfin, c'est quelque part, il y a presque un... En filigrane, bien sûr, une sorte de récit autobiographique qui se tisse dans ces textes, même si à première vue, je comprends bien que ce n'est pas ce qui frappe le plus. Hein. Mais personnellement, je ne trouve pas du tout Ponge froid. Même quand il parle d'Armand, de sa fille, en disant objet proche, on pourrait trouver que c'est froid, mais pour moi, c'est très tendre.
Alors, justement, sur le choix de ces objets, on l'écoute, c'était en 62.
Je me défie des choses, enfin, qui sont pittoresques par elles-mêmes. On me demandait il y a quelques jours pourquoi je n'avais pas fait de chat. Un chat, alors que j'ai fait un cheval, une chèvre, des choses comme ça. Mais j'ai dit probablement parce que j'ai pensé que le chat était poétique par lui-même. J'aime entrer dans une pièce dans laquelle siège un chat. Enfin, pour moi, c'est une leçon merveilleuse. Enfin, le comportement des chats est pour moi quelque chose d'admirable. Mais je suis assez repoussé. C'est comme si vous voulez, je n'aurais pas l'idée d'écrire un poème sur le coucher de soleil. Ou si je l'ai écrit, c'est à l'intérieur d'un poème entier sur le soleil. C'est pour ça que je suis plus touché par le mutisme, par le silence, par l'humilité des choses. Donc, ce sont les choses les plus humbles, les plus muettes, les choses qui n'ont pas encore été dites ou trop dites, qui me touche davantage. Et j'ai envie d'en dire quelque chose.
On dirait presque qu'il ronronne quand il parle du chat dans sa voix. Et dans ce même entretien, il parle juste avant des crevettes, des fameuses crevettes, et en racontant comment ça remonte à l'enfance et à ces crevettes qu'il voyait à Boulouris, dans le Var, en vacances, quand il avait 4 ou 5 ans. Alors, je m'adresse à quelqu'un qui travaille aussi l'écriture de soi. Alors, on est très, très loin de Ponge, hein. Oui. Mais... En même temps, est-ce que dans justement le choix de tous ces, alors vous l'avez dit un peu, mais dans le choix de tous ces objets qui font sujet, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de dire, alors sans dire jusqu'à dire je, mais quand même un peu.
Ah oui, bah si, oui, complètement, je trouve, oui, évidemment. Il y a le passage dont vous avez parlé là, sur les crevettes, le passage que j'évoquais tout à l'heure du mimosa. Voilà, même le lézard, hein, quand, alors c'est pas dans la rage d'expression, mais c'est un texte qui est consacré au lézard, et pareil, ça remonte en fait au jardin de son enfance à Nîmes, où il voyait le lézard sur le mur qui bordait le jardin. Donc oui, il y a vraiment une dimension qui est très intime dans le choix de ces objets, quoi.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Et aujourd'hui à la technique Dimitri Paz, à la réalisation June Loper avec la collaboration de Virginie Leduo et avec nous Pauline Flepp, écrivaine aussi, universitaire, spécialiste de Francis Ponge. Francis Ponge dont La rage de l'expression, son Mimosa, sa guêpe, ses notes prises pour un oiseau sont cette année au programme du bac français. Quelques notes du rappel des oiseaux de Rameau, interprété au piano par Wilhelm Kempf, que Ponge aimait beaucoup, qu'il tenait pour le plus grand. D'ailleurs, en général, dans tous les documentaires concernant Ponge, il y a toujours quelques notes de Rameau. Est-ce que vous voulez bien nous faire une petite lecture, Pauline Flepp?
Oui, alors l'extrait que j'ai choisi est un extrait du texte La Mounine au siècle de Provence, qui est un texte qui me touche beaucoup pour la question du paysage, en fait, et de l'impact que peut avoir un lieu sur Ponge, en l'occurrence. Donc c'est un extrait qui a été écrit du 12 au 13 mai. « Je n'arriverai pas à conquérir ce paysage, ce siècle de Provence, ce serait trop fort. Que de mal il me donne. Par moments, il me semble que je ne l'ai pas assez vu. Et je me dis qu'il faudrait que j'y retourne. Comme un paysagiste revient à son motif à plusieurs reprises. Pourtant, il s'agit de quelque chose de simple. » Au lieu-dit La Mounine, entre Marseille et Aix, un matin d'avril, vers 8h, à travers les vitres de l'autobus, eh bien qu'ai-je ? Je ne parviens pas à continuer. Le ciel au-dessus des jardins, comme je levais les yeux vers la cime des arbres, et quoiqu'il fût pur de tout nuage, m'a paru tout mélangé d'ombre, comme blâmé, siècle blâmé, tout mélangé d'ombre et de blâme, voire aussi blême, comme frappé de congestion. Ce jour vaut nuit, ce jour bleu cendre-là, il tient son ombre dans les serres de son éclat. Son ombre à son éclat tient toute estompée. Il tient son ombre dans son éclat estompé. Il pèse sur la Provence, pèse n'est pas le mot. Il a sur elle l'autorité d'un miroir noir, paysage généralement quelconque, mais incandescent, embrasé. Son ombre a son éclat mêlé comme par une estompe. La plus fluide des encres à style est-elle vraiment la bleue noire ?
Merci. Ce recueil-là, La rage de l'expression, est mis au programme du bac français cette année. Il l'était aussi l'année dernière. Qu'est-ce qu'un tel corpus peut dire en 2024 ? Où est-ce qu'on en est d'ailleurs avec Ponge aujourd'hui ? Quelle est sa place ?
Alors je pense qu'un tel corpus pose clairement difficulté à des lycéens en ce qu'ils s'écartent complètement de leur conception de ce que peut être ou de ce que devrait être la poésie. Enfin, j'ai eu l'occasion d'enseigner en lycée
ça
moi-même.
Ça c'est plutôt bien, non ?
Ah oui, non, mais ce qui était drôle, c'est que la seule fois où j'ai enseigné Ponge à des lycéens, enfin, j'avais eu deux réactions complètement différentes quand je leur avais lu le texte. Une réaction enthousiaste qui était « Ah, ça, c'est de la poésie !» en mode « Chouette alors !» Et une un peu dégoûtée, dubitative « Ah, ça, c'est de la poésie !» avec un rejet, justement, comme ça ne correspondait pas aux attentes qu'ils avaient, un rejet d'emblée du texte.
Sartre disait qu'il fallait lire Ponge avec attention, ça va sans dire, mot par mot, puis le relire. Quelle lectrice est-ce qu'il a fait de vous, Ponge ? Pauline Flepp.
Alors très clairement, moi je l'ai lu avec la plus grande naïveté, et alors, chacun lit comme il veut, mais je pense que c'est une façon de le lire qui fonctionne très bien et à laquelle il nous invite en fait. Donc oui, vraiment essayer de se débarrasser de tous ces préjugés, que ce soit sur la poésie ou sur la chose qu'il décrit, et c'est une lecture assez... enchanteresse. Je ne sais même plus si le mot existe, mais...
Bien sûr, bien voilà. Sûr. Est-ce qu'il faut l'aimer toujours, tout le temps, ou de bout en bout, pour lui consacrer autant de temps ? Je te signale que vous lui avez, entre autres choses, consacré votre thèse.
Ah non, je ne pense pas. Enfin, une thèse n'est pas une hagiographie. Donc, non. Enfin, de bout en bout, il y a des textes de Ponge qui me touchent moins. Et il y a aussi... Enfin, ça, c'est quelque chose qui est souvent évoqué, mais un parcours politique qui peut faire qu'à un moment, on peut s'éloigner un peu de ses convictions politiques. Mais peu importe, j'ai envie de dire. Enfin, je l'aime tel qu'il est, ça me va très bien.
La rage de l'expression est publiée chez Gallimard dans la collection Poésie. Merci infiniment d'être venue nous en parler. Pauline Flepp, quant à vos travaux nombreux sur Ponge, vous pouvez les retrouver sur le site de l'émission Poésie et ainsi de suite. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La Croix l'Hebdo que vous pouvez podcaster, partager sur le site de Radio France. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.